Non, mais je veux dire, là, c'est, ça devrait être à la portée de tout le monde. Tout le monde devrait être capable de ça, et tout le monde l'est. On n'a pas besoin d'être génial ni quoi. Il suffit d'avoir la patience de retourner 10 fois, de faire tout le tour en voiture, de se promener ensuite à pied dans tous les axes, et de monter sur la colline, et de redescendre, et d'aller au bistrot, etc. Ça, et quand on a trouvé ensuite le point juste d'où on voit une topographie, là, c'est au bout de... Il faut beaucoup de patience, il faut parfois retourner au bout d'un an, au bout de quelques semaines ou de quelques mois. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, la précision, elle vient d'elle-même. Là, à la fin, on se dit, bon, là, il vaut mieux commencer sur tel tronc d'arbre, et là, il vaut mieux éliminer à la fin tel poteau de haute tension, où il vaut mieux le prendre, des choses comme ça. Il vaut mieux avoir de 3 cm plus de ciel ou moins de ciel, etc. Il vaut mieux éviter ces brins d'arbre au premier plan, ou au contraire, il faut les accepter, tout ça. C'est une question de centimètres en fin de compte, c'est le résultat d'une patience. Hein. Le génie, comme disait l'autre crétin, c'est une longue patience et rien d'autre. Hein. Faut pas...
Mais ça me semble renouer quand même avec les débuts du cinéma, où en fin de compte, les contraintes, par exemple pour les films de lumière, il fallait repérer le lieu qu'on allait filmer par rapport à la lumière du jour, par rapport à ce qu'on voulait dire, etc. Ouais. Donc il y avait un travail de préparation énorme que bien évidemment plus personne ne fait aujourd'hui parce que les gens...
Pourquoi ? Ils ont le temps, ça coûte rien ça. Ouais, ils peuvent y aller.
C'est la délégation, c'est le fait de croire que parce qu'on filme, on pense.
C'est du pré-cuit.
Oui.
On
enregistre puis on verra ensuite. Voilà. C'est complètement aberrant.
Voilà. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui vous êtes peut-être probablement les seuls. Avec bon, parfois Godard fait ça, d'autres aussi, parfois, à choisir, à faire le travail de repérage que plus personne ne fait.
Oui, ça c'est exact. Les gens ne le font plus, on le fait pour eux.
Il y a même des gens très estimables qu'on connaît, je ne veux pas nommer, qui envoient des assistants repérer des lieux. Ils envoient et ensuite ils vont voir, évidemment.
Oui, alors là, on leur en propose 2-3 et ils choisissent parmi les deux. Mais c'est complètement... Ça tient pas debout, c'est pas...
Mais nous, avant de voir... De choisir entre 2-3 positions ou des lieux, on en a vu 40 nous-mêmes. Et on se dit que ça sert à rien d'envoyer un pauvre con qui sait pas vraiment ce qu'il cherche. C'est pas humain ni pour lui, ni pour le film, ni pour nous.
Évidemment, c'est fatigant,
Oh, mais c'est aussi reposant parce que c'est pas un travail.
C'est passionnant parce qu'on voit des choses qu'on ne verrait pas sinon, on voit des gens qu'on ne verrait pas sinon. C'est vraiment.
On va au bistrot ou on va manger un sandwich, on parle avec des gens, tout d'un coup on s'aperçoit qu'ils ne savent plus rien ou qu'il y en a d'autres qui vous racontent des histoires, etc., qui ont une mémoire parfaite et des choses comme ça, ou qui vous disent est-ce que vous êtes allé voir là-haut, on dit ah non,
En cherchant, c'est pour le premier village qu'on voit, en cherchant, on est monté manger un sandwich dans un bistrot, et qu'est-ce qu'on voit au mur? Une reproduction du joueur de cartes. Hein, c'était le patron du bistrot, il avait trouvé ça beau, il savait absolument rien de.
Mais grande comme ça, hein. Ouais. Un petit bistrot de rien du tout, on a vu là un calva, il y a 3 tables, et bon. Je dis mais ça vous plaît ça? Il me dit ah oui c'est beau. Je dis oui c'est beau. Et je dis mais vous savez ce que c'est? Non, il savait pas. Ça lui avait plu, c'est tout. Une reproduction pas particulièrement mauvaise, assez grande.
Et là on se dit que Cézanne a raison quand il disait qu'on devrait lui donner les murs de mairie, etc. à peindre.
Bien sûr.
Qu'il a raté son public même.
Bien sûr. Oui, parce que les musées, c'est jamais une
clientèle spéciale. Non, mais c'est vrai que les gens, en plus de ces habitudes de production-là, ils peuvent pas venir raconter que le temps, c'est de l'argent, parce que si eux prennent leur temps, ça coûte rien. Je veux dire, ça leur coûte une bicyclette ou une R4 et un peu d'essence. Ils peuvent y aller eux-mêmes. Ils ont plus d'argent que nous, ou ils peuvent prendre le train, ou je ne sais pas quoi. Et ils peuvent retourner tant qu'ils veulent.
Sans... Tous les orgues qu'on a vus pour le bar. Ben, dans ce temps-là, on n'avait pas d'auto, même pas une R4. On prenait le train, le bus, on allait à pied et on a vu.
On a
découvert comme ça des petites églises avec des orgues magnifiques dans des villages minuscules. Mais on a découvert un pays, c'est comme ça aussi qu'on s'est mis à connaître l'Allemagne.
Dans l'extrême nord de l'Allemagne, c'est les orques de Schnitker. L'autobus nous laissait à 6 km d'un village ou des choses comme ça, parce qu'il n'y en avait pas qui continuaient. Ben, on y allait à pied. On perdait une demi-journée, on y allait.
C'est pour ça que je trouve que, en fin de compte, dans la plupart des films qu'on voit aujourd'hui, les lieux, les espaces n'ont quasiment pas d'existence au sens où ils sont là pour du vraisemblable. Mmh. Et chez vous, les lieux existent, parce que d'abord, je trouve qu'ils sont choisis. Alors, ils vivent, on a envie de connaître leur histoire, on a envie de savoir ce qu'il y a derrière. Alors, souvent, c'est lié quand même au sujet du film, bon, pour le Trigun, c'est le cas. Mais je dirais que ça fonctionne dans tous les films comme ça.
Oui, mais les lieux, en plus de ce qui. De la fonction qu'ils ont dans le film, ils existent pour eux-mêmes. Ils ne sont pas colonisés pour exprimer quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a les contradictions qu'il y a là-dedans. Il n'est pas prévu qu'on va montrer que le système industriel des mines de fer et de charbon de la Moselle est complètement liquidé et que dans ces régions-là, il y a plus d'une moitié de la population qui a disparu depuis Moyeuvre et Agondanche, etc., hein. Une moitié, plus d'une moitié dans certains villages.
Et les autres, ils ont leur petit jardin, leurs poules. On entend beaucoup de poules.
Oui, on entend la tension.
C'était pas prévu qu'on montrait ça. On montrait une topographie et des villages. Mais en plus, c'est dedans. Et puis en plus, il y a la nature en tant que telle, comme on dit, etc. Bon, on n'essaye pas de forcer quelque chose à exprimer quelque chose. De l'imiter, et puis le reste se fait écraser. Non, puis il y a aussi autre chose, c'est que on en est à un point où beaucoup de jeunes cinéastes sont complètement. Ils ont l'impression qu'il suffit d'avoir une caméra pour montrer quelque chose. Et eux, ils servent d'une machine pour montrer des choses qu'ils n'ont même pas pris le temps d'aller voir ou de regarder. C'est ça le problème. C'est ce que j'appelle les cinéastes parachutistes. Des gens comme Godard et nous, ben on est des gens qui n'avaient pas beaucoup de tendresse pour les parachutistes. Moi, si j'ai décidé à quitter la France en 58 pour ne pas aller tirer sur les Algériens et me faire entraîner dans des tortures, c'est parce que j'avais des amis algériens, mais c'est aussi parce qu'une des dernières images que j'ai vues en France, c'était des Algériens qui, au cours de séances de débordement, se faisaient sous les fenêtres de la maison de mes parents, rue aux Ours à Metz, un mec qui se croisait prendre au collet, et si on n'était pas descendu, on le mettait l'étranglait là sur un capot de bagnole. Hein. À Metz, il y avait énormément d'Algériens. Quand j'étais petit, d'ailleurs, on allait même un peu comme ça, un peu briscoute, mais pas seulement, on allait dans des quartiers dans des cafés du quartier où les Algériens étaient en grande majorité. Curieusement, d'ailleurs, c'était en grande partie le ghetto juif, enfin, qui n'était pas vraiment un ghetto, qui n'était plus un ghetto de Metz, enfin, disons le quartier juif. C'est là qu'ils avaient leurs cafés, 5-6 cafés.
Parce qu'il y avait beaucoup de juifs ?
Parce qu'il y avait beaucoup moins de juifs, naturellement. Et puis parce que, bon, c'était... Ouais, et là, on allait, on était quelques amis, on allait leur apprendre à lire en français, parce qu'ils en avaient bien besoin, étant donné qu'ils arrivaient là.
J'aurais bien fait de vous apprendre à lire l'arabe, on échange.
Bah oui.
On va avoir du service.
Les gens veulent savoir, ça n'existait pas trop, maintenant, certainement.
En Égypte, tu aurais pu savoir un peu d'arabe.
Bah, en tout cas... eux, ils avaient un besoin urgent de pouvoir un peu lire et écrire. Et nous, petits privilégiés, on n'avait pas de besoin d'apprendre l'algérien, malheureusement. Bon. Béla Bartok a été plus malin, il a été en Algérie. Une de ses plus belles œuvres, c'est un travail musical sur des chants algériens. Qui sont d'ailleurs même pas dans le commerce de disques. Il doit y avoir une bande à Radio France Musique que j'arrive pas à me procurer. J'ai entendu ça une fois.
Faites un peu le même travail que Bartok.
Je sais pas.
C'est un peu la même chose. Ouais. C'est un peu la même chose, le souci. C'est un souci de vérité. Moi, je crois que c'est ça, quoi. Aussi, faire des films, c'est le rapport quand même à une vérité. C'est pas particulièrement. C'est pas de la, à mon avis, c'est pas de la prouesse technique, parce que bon, on va parler du Schoenberg qui, à mon avis, quand même filmé dans des conditions pas faciles. Mais je pense que ça aussi, c'est le souci de la précision, de la minutie et du rapport à la vérité, et en respect de l'œuvre. Et puis, on respecte ce qui est dit au-delà de l'œuvre, parce qu'il y a ce que dit Schoenberg. À mon avis, il y a le texte d'Hans Eisler, vous avez choisi de mettre dans Ombre, dans l'édition, là, qui est un peu média, qui dit entre votre point de vue, probablement, comment le truc, et puis le point de vue de Schoenberg, qui pourrait vous parler de du jour au lendemain. Déjà, ça fait plusieurs fois, ça fait donc trois fois Schoenberg. Hein, l'introduction à la musique, moi j'ai vu il y a longtemps, c'est un peu Blockhaus comme ça, si je me rappelle bien. Bon, il y a Moïse et Aaron, et il y a du jour au lendemain qui se situe. Enfin bon, il y avait trois fois Schoenberg déjà, on pourrait peut-être en parler. Et Schoenberg en 29, c'est quoi? Bon, il y a des écrits sur la mode là, qu'on a vu, au journal de Berlin. Alors, cette envie de faire du jour au lendemain, déjà, peut-être.
Est-ce que vous êtes venu du jour au lendemain?
Non, non, c'est très vieux. C'est... On a entendu une fois, d'abord, c'est, là, c'est là que c'est venu. Il y avait un seul enregistrement.
C'était avant qu'on fasse mesure.
C'était justement un an ou deux ans avant Moïse Aaron. En préparant Moïse Aaron, on a entendu, il y avait des disques noirs à l'époque, évidemment, et il y avait une série dirigée par Robert Kraft, enregistrée plus ou moins aux États-Unis ou à Londres, qui se prétendait les œuvres complètes de Schoenberg. C'était pas tout à fait complet d'ailleurs, mais il y avait quoi, 4-5 coffres, je sais plus. Et il y en avait un avec cette œuvre-là qui n'a pas été enregistré. C'était, bon, maintenant c'est épuisé, mais ça c'était il y a plus de 35 ans. Hein. Il l'avait enregistré il y a plus de 35 ans.
64. J'ai regardé, j'ai été à la FNAC chercher. J'ai demandé des catalogues, oui, quand j'ai vu le film aux Ursulines.
Alors qu'est-ce qu'ils disent à la FNAC?
Le lendemain, quand on arrive, à la FNAC, ouais. J'ai demandé si du jour au lendemain existait. On m'a dit, ça n'existe. D'abord, ils n'en avaient jamais entendu parler. Ouais. Ils ont regardé dans les bouquins. Et il y avait marqué les dernières représentations publiques. Et apparemment, il y a des enregistrements. Alors, si ma mémoire est bonne, c'est les années 60. Je ne sais plus si c'est 61 ou 65.
Ouais, là, il y a eu un concert fait c'est par ça, Rose Barrow qui a été sur un disque qu'ils ont retiré tout de suite.
Voilà, c'est ça.
Qui était pas très bon. Rosebaud, en général, c'est très bien, mais ça, là, il a été dans des conditions où il n'a pas pu. Mais alors, ça, ils l'ont plus.
Alors, ça, ouais. Ça n'existe pas, mais par contre, c'était mentionné dans un bouquin où était.
Mais Kraft, qui est bien antérieur, c'était même pas dans le catalogue.
À ma connaissance, je l'ai pas vu. Parce que moi, je lui ai demandé de lire.
Robert Kraft, c'est un jeune chef d'orchestre qui travaille à Hollywood, hein, c'est pas compliqué. Il a connu la musique de Schoenberg quand Schoenberg était à Los Angeles. Et X années après sa mort, il a commencé à enregistrer une bonne partie de l'œuvre de Schoenberg, et là-dedans, il y avait ça. Bon, alors là, quand on discutait avec l'éditeur à Francfort, qu'on s'était mis d'accord et qu'on allait faire enfin Moïse et Aaron, ils nous ont dit, qu'est-ce qu'on peut vous donner en dehors d'une tasse de café? Alors on a dit, ben, donnez-nous cette partition, là. Et depuis, on l'avait. Bon, voilà, ça c'était donc en 60, je sais pas, à l'époque de... Ouais, c'est exactement l'année de Leçon d'Histoire, 72.
Voilà. Bon, ben, je vais vous faire un beau cadeau. Super. J'ai déjà du Schoenberg, mais j'ai probablement pas ça.
C'est tout neuf parce que c'est un... Nous, on a nos vieux trucs qui sont complètement usés à Rome. Là, il y a une chose très, très drôle, c'est un entretien avec Schoenberg.
C'est génial.
Mais c'est très court.
Ça, c'est géant. Merci beaucoup, Daniel.
Et puis là, il y a le texte en anglais et en français. La traduction, elle vaut ce qu'elle vaut.
C'est génial.
Et c'est un document parce que c'est épuisé depuis au moins 20 ans.